RCF.
Alain Durand, la manière dont vous parlez de la toute-puissance de Dieu est une manière assez récente d'en parler. Longtemps, on est resté avec cette idée d'un Dieu tout-puissant, un peu interventionniste justement dans la vie des hommes. Depuis quand est-ce qu'on envisage les choses sous un tout autre angle et d'une manière finalement complètement inversée?
C'est effectivement quelque chose de relativement récent dans la réflexion théologique et spirituelle que, par exemple, qualifier Dieu de pauvre, dire que Dieu est faible, que Dieu est impuissant, ce langage n'était pas tenu à ma connaissance antérieurement. Il représente donc d'une certaine façon une grande nouveauté.
C'est lié au XXe siècle?
Oui, c'est lié au XXe siècle, tout à fait, oui. Sans doute un des grands promoteurs de cette façon de voir, c'est Maurice Zindel. Je crois que cela veut dire que c'est la réflexion sur Dieu qui s'élabore de façon plus rigoureuse à partir de Jésus-Christ. Parce que très souvent, il faut bien dire que la théologie a juxtaposé une certaine idée de Dieu qui était un héritage philosophique, de piété, et puis la révélation de Jésus-Christ. De telle sorte que la pauvreté, c'était le fait de Jésus-Christ, mais ça n'était pas répercuté sur Dieu lui-même. Or, actuellement, j'allais dire l'audace théologique qui a lieu, c'est que précisément, on peut qualifier Dieu lui-même de pauvre, faible et fragile.
On sait bien que le XXe siècle a été le siècle de toutes les horreurs et que cette conception d'un Dieu tout-puissant qui intervient et qui fait des miracles, elle tenait plus.
Tout à fait d'accord avec cette façon de voir. Effectivement, il n'y a pas de réponse de Dieu de l'ordre du miracle ou du changement des situations, comme s'il était le tout-puissant qui ne demande qu'à exercer sa toute-puissance à l'égard de l'homme. Au contraire, la présence de Dieu ici est davantage pensé comme celui qui veille avec nous, hein, au cœur de la souffrance, au cœur de la détresse, qui est une présence forte, puissante, mais qui ne nous dispense pas de l'action pour changer les situations elles-mêmes. On peut très bien penser que tout ce que l'on a appelé les miracles, y compris dans le Nouveau Testament, hein, la suite des miracles dans l'histoire de l'Église, ce sont les œuvres de bienveillance que l'on appelle les œuvres de miséricorde, hein, qui sont l'activité de l'Église pour soulager la souffrance humaine.
Réalisées par les hommes.
Réalisées par des hommes. C'est ça la présence de Dieu aujourd'hui, la présence bienfaisante de Dieu. Ce sont les hommes qui la monnaient dans l'humanité, où Dieu passe par les hommes pour la monnayer.
Là, c'est un renversement total de perspective. On sort complètement de cette idée qu'on se fait de Dieu, dont certains théologiens notamment disent que ça fait partie des fausses images de Dieu. Est-ce qu'on est prêt, selon vous, à envisager les choses sous cet angle-là, d'un Dieu qui n'interviendrait plus que par nos semblables?
Je ne sais pas si on est prêt à cela, parce que on n'est jamais prêt, je crois, complètement à recevoir des vérités aussi fortes de la foi. Donc c'est un travail que nous avons à faire pour accepter que Dieu soit ce Dieu-là et pas le Dieu qui trône quelque part et qui va pouvoir, s'il le veut bien, venir remédier à nos détresses. Non, il est un Dieu qui accompagne l'homme du plus profond de lui-même dans sa démarche et dans sa quête du bien, de bonheur, d'humanisation.
Ça a quelque chose de rassurant en même temps, un Dieu extérieur qui pourrait tout faire.
C'est vrai, c'est rassurant, mais en même temps, c'est pas très rassurant quand on constate que ça ne marche pas très bien. C'est ça le problème.
Il y a un relent de paganisme, selon vous, dans cette conception de Dieu?
Oui, c'est un héritage religieux de l'humanité. La foi traîne avec elle beaucoup d'éléments religieux qu'il ne faut pas confondre avec la foi elle-même, qui sont aussi des éléments de la culture historique des hommes. Le christianisme, surtout la prise en compte du Christ et du Christ crucifié, est un acte de dépouillement par rapport à toutes ces perception de Dieu tout-puissant et intervenant et auteur de miracles.
Alain Durand, un Dieu qui agit par nous, à travers nous, c'est une énorme responsabilité qui nous est donnée là.
C'est vrai, c'est une grande responsabilité, ça donne une profondeur extraordinaire à notre action. En même temps, c'est une responsabilité dont il ne faut pas que nous culpabilisions, parce que ce serait épouvantable, hein. Mais c'est une démarche de confiance à l'égard de Dieu. Dieu ne peut vouloir que ce qui est bon pour nous. C'est ça la base de l'acceptation de cette action de Dieu.
Vous avez parlé de Maurice Zindel et vous avez également cité rapidement Eti Ilsoum. Je voudrais lire un tout petit passage des écrits de Eti qui sont souvent cités justement pour illustrer ce qu'on est en train de dire. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. » Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Aider Dieu à ne pas s'éteindre en nous.
Oui,
ça veut dire qu'il est à notre merci?
Non, ça ne veut pas dire qu'il est à notre merci, mais que nous avons à l'accueillir. Dieu n'agit pas sans nous ni en dehors de nous. Et là, Eti Ilsoum va en quelque sorte plus loin, puisqu'il Elle dit que c'est nous qui devons aider Dieu à être présent en nous. C'est évidemment quelque chose qui est très nouveau et assez difficile d'ailleurs à exprimer dans le cadre des catégories classiques. Je crois que là encore, la contemplation de Dieu pour nous, chrétiens, mais Ilsoum est juif, pour nous la contemplation de Dieu à travers le Christ crucifié, est un élément fondamental pour nous d'accès à cette vérité-là d'un Dieu impuissant que nous avons à accueillir et à protéger.
Crucifié mais ressuscité quand même.
Dieu est crucifié, ressuscité, mais n'oublions jamais que celui qui est ressuscité, c'est celui qui a été crucifié. Et qu'on risque de partir dans une conception complètement païenne de la résurrection si elle n'est pas arrimée à l'existence historique du Christ comme Christ crucifié. C'est un des dangers de la foi, je crois, de considérer que la passion du Christ et sa mort constituent un moment dépassé ultérieurement pour atteindre une autre vie, mais c'est une vie qui a été engendrée et qui est passée par la mort et qui est marquée par cette mort et qui fait qu'on ne peut pas la penser n'importe comment non plus. C'est pas un miracle de plus, la résurrection.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un déploiement de la puissance du don que le Christ a fait dans la croix. Moi, je suis persuadé personnellement que celui qui donne sa vie ne peut pas mourir. Donner sa vie, c'est-à-dire passer par-delà la mort, aller plus loin que la mort de son propre vivant, lorsqu'on donne sa vie pour autrui.
Mais vous parlez de nous, là, hommes, femmes.
Oui.
C'est possible de faire ça?
Nous sommes invités à le faire, je ne dis pas que ça se fait nécessairement. Et si nous ne le faisons pas, on peut toujours compter sur que Dieu nous aime quand même et nous accueille. Mais je crois que pour moi, le signe de la résurrection du Christ et de ceux qui ont donné leur vie, c'est bien ça, c'est la capacité de notre vivant à donner notre vie au risque de la mort.
Mais qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie?
Donner sa vie, c'est faire le bien de l'autre, pour lui-même, quoi qu'il m'en coûte. Alors c'est évidemment démesuré de parler comme ça, ça paraît énorme. Je ne dis pas qu'on le réussit, mais c'est l'horizon, un chemin sur lequel on avance.
Quel est le bénéfice pour celui qui donne sa vie?
Celui qui donne sa vie, eh bien, c'est de la retrouver. C'est bien ce qu'il nous est dit. Celui qui donne sa vie, son bénéfice, c'est d'accéder à la vie, pour de bon.
Mais la vie pour de bon, est-ce qu'on la vit pas déjà? Est-ce que là, on n'est pas en train de vivre au quotidien?
Oui, bien sûr, c'est le début de la vie. Mais c'est une vie qui n'est pas achevée, à mon avis. Comme dit le Christ, annonce bien le royaume de Dieu, il l'annonce comme quelque chose qui commence dans l'histoire, qui est inauguré. Donc c'est bien cela que nous faisons de différentes façons, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais on ne peut pas dire qu'à un moment donné, la vie, dans tout ce que l'homme souhaite, soit présente. Il n'y a que des inaugurations et des esquisses de vie dans l'histoire des hommes. Mais il y a des temps forts, je crois, dans l'humanité, c'est la situation de ceux qui ont donné véritablement leur vie pour le Christ, pour les autres, ce qu'on appelle les martyrs, mais il n'y a pas que les martyrs de la foi, hein, il y a les martyrs de l'humanité, en quelque sorte, hein, et qui, par là, je crois, transcendent déjà la mort de leur vivant. Pour moi, ça, c'est vraiment une conviction, c'est que la résurrection, ce n'est pas quelque chose qui vient après la mort, mais c'est déjà transcender la mort de notre vivant maintenant.
À demain. Merci beaucoup, Alain Durand.